partager la parole avec vous. On va lire dans Philippiens chapitre 2, reprendre ce passage dont on a évoqué un verset dimanche matin. Vous savez, ce verset traduit par Tob, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Ça s'inscrit dans un contexte, c'est Philippiens 2, on va le relire ensemble, à partir du verset 1er. Et puis, verset après verset, nous en retirerons ce que la parole peut nous donner. Philippiens, chapitre 2, verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Amen. Alors, il est question de consolation, de soulagement. Ah, pourquoi Paul parle de cette façon-là ? Bien, quand vous lisez l'Écriture, faites attention aux mots-clés. C'est écrit « si donc ». Donc, ça veut dire que ça se rapporte à ce qui précède. C'est une conclusion. Et qu'est-ce que Paul dit juste avant au verset 30 ? « Soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » En fait, Paul est dans le combat. Les Philippiens aussi. Lequel ? Ben, il est en prison quand il écrit aux Philippiens. Il est en prison à cause de la foi. Et dans son combat, il dit depuis la cellule de sa prison, s'il y a quelque consolation, quelque soulagement dans nos combats, c'est bien l'unité de l'Église. Amen. Parce que c'est ce qu'il dit, s'il y a quelque consolation, quelque soulagement, rendez-moi heureux dans ma prison et dans mon combat, en ayant une même pensée, une même âme. Gloire à Dieu, en étant unis, rendez ma joie parfaite. Je pense qu'on est heureux quand l'Église est unie. Amen. Et quand elle ne l'est pas, il nous manque quelque chose à notre joie. Pour que la joie soit parfaite, il faut que nous serrions nos rangs entre nous. Un même sentiment, je rappelle, dimanche on en a un peu parlé, ça veut dire même considération pour tout le monde. L'égalité... En France, c'est écrit « liberté, égalité, fraternité », mais ça n'existe pas. L'égalité peut se vivre dans l'Église. C'est-à-dire un même sentiment, une même considération, pas de préférence, mais aimer tout le monde. Alors ça, c'est possible que par l'amour de Dieu. Amen. Un même sentiment. Et ensuite, il est dit « une même pensée ». Une même pensée. Ah, que le Seigneur puisse nous donner d'être d'accord entre nous. Alors on va dire, non mais dans l'Église, on est tous libres, on peut tous penser différemment. Bien sûr, mais je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas toujours être en opposition les uns avec les autres et d'avoir cet esprit un petit peu anticonformiste. Et de dire, bah, comme on pense ça dans l'Église, moi je vais me singulariser en pensant quelque chose de plus intelligent que les autres. Non, une même pensée, que l'esprit nous unisse et nous permette globalement d'avoir un même avis dans les choses de Dieu, que le Seigneur nous conduise dans cette unité. Amen. Rendez ma joie parfaite par l'unité. Alors, verset 3, on continue. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Ah, c'est pas facile, ça. C'est pas naturel. Alors, faut pas pratiquer les choses à l'envers. Il faut pas se dire, je vais me forcer à regarder les autres comme étant meilleurs, comme ça je vais devenir humble. Non, ça c'est le contraire de ce qui est écrit. C'est l'humilité qui va changer notre regard. Il faut d'abord une humilité intérieure pour qu'on regarde les autres au-dessus de nous-mêmes. Hein, je ne crois pas en la méthode Coué. Je ne pense pas que c'est en se répétant « les autres sont meilleurs que moi, les autres sont meilleurs que moi » qu'on va devenir humble. Je ne pense pas. Je crois que c'est plutôt parce qu'on va avoir une humilité du Seigneur qu'on va changer et qu'on va même apprécier les autres. Parce que souvent, on critique les autres au lieu d'apprécier leurs qualités. Et pourquoi on déprécie les autres? Pour nous élever nous-mêmes. Et parfois, on a des complexes d'infériorité. Alors, pour nous soulager, on déprécie les autres pour se grandir soi-même. Mais l'Écriture nous dit que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Un beau programme, la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'Écriture ne nous donne pas seulement la voie, elle nous donne le moyen. Continuons verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, littéralement, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Amen. Voilà la solution. On vient de dire que l'humilité vous fasse regarder les autres, et là, franchement, on se dit, comment? Ben, la solution, Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est descendu. Il s'est pas battu pour son titre de Dieu, pour sa forme de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il est devenu un vrai homme. Là où nous, on a beaucoup de mal, par exemple, au boulot. Ah, si on parle d'être rétrogradé dans la vie, on ne le supporte pas. Mais Christ est descendu de son ciel. Il a quitté la forme de Dieu pour prendre la forme humaine. Et plus que la forme humaine, il a paru comme un vrai homme. Nous croyons, avec la doctrine, que Jésus-Christ est totalement Dieu et totalement homme à la fois. Qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Amen. Il est Dieu fait chair. Dieu fait homme. Dieu qui s'abaisse au point de devenir un esclave. Un esclave. Je pense que si ce n'était pas écrit dans la parole de Dieu, personne n'aurait pu imaginer que Dieu puisse faire cela. Que Dieu puisse devenir un esclave. Et quand on regarde à ce que le Seigneur a fait, alors ça nous aide tous, ça nous remet à notre place et on se dit, quel misérable que je suis, moi, de faire le chemin inverse, d'essayer de monter, d'essayer de grimper, alors que lui, il a descendu. Amen. Il a descendu. Alors, au verset 8, il est dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que c'est que l'obéissance ici? C'est pas l'obéissance à des commandements, mais c'est l'obéissance à la volonté de Dieu dans sa vie, qui était de mourir sur la croix, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort honteuse de la croix, parce qu'il y a encore à la rigueur des morts héroïques, des morts honorables, mais là c'était une mort ignominieuse. Il s'est rendu obéissant. Alors, si le Fils s'est rendu obéissant, vous savez, nous aussi, nous allons prendre le même chemin. Et comment Dieu va nous apprendre l'obéissance? En respectant ses commandements, bien sûr, mais pas seulement dans la vie concrète de tous les jours. Dieu va nous permettre d'avoir et de passer, de vivre des humiliations. Des moments où on est abaissé, on est moqué par les autres, on est crucifié par les autres. Eh bien, c'est là qu'il nous faudra, en tant que chrétien, prendre le même chemin que le Seigneur, et d'apprendre à obéir. Seigneur, tu me fais passer par ce chemin-là, je suis humilié, je suis rejeté, mais toi tu l'as été avant moi. Et tu l'as accepté, tu as appris à obéir par les circonstances difficiles de la vie, même jusqu'à la crucifixion. Souvent nous pensons que nous devons obéir à la parole de Dieu, dans les commandements écrits, mais nous devons aussi obéir dans les circonstances de la vie, que Dieu dirige, que Dieu conduit. Plutôt que de nous révolter et de trop vite de dire « Mais Seigneur, c'est pas normal, délivre-moi de cette épreuve !» Jésus a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Et apprenons à obéir dans la vie. Hein, parfois, le Seigneur permet qu'on ait un chef vraiment pas facile hein, et injuste. Et c'est toujours sur nous qu'il en a. Mais le Seigneur le permet aussi pour que nous apprenions l'obéissance. Était-il juste que le Fils de Dieu soit ainsi crucifié, malmené, qu'on ait craché sur lui, qu'on l'ait fouetté, qu'on l'ait frappé? Est-ce que c'était juste? Bien évidemment non. Mais il n'a rien dit. Il a obéi. Il s'est soumis. Alléluia.
Alléluia.
Il a appris l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Alors le verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a un proverbe dans l'Ancien Testament qui disait, avant d'être élevé, il faut savoir être humble. Avant d'être élevé, il faut savoir être humble. C'est toute la vie du Seigneur. Avant d'avoir son nom souverainement élevé, il a eu son nom humilié. Avant d'être Seigneur, dans le même passage, il est dit qu'il avait pris la forme d'un esclave. Pour devenir Seigneur, il a d'abord accepté de devenir esclave. C'est le même chemin pour nous tous. Avant d'être glorifié, avant d'être élevé dans le ciel, il nous faut apprendre sur la terre à être humble. Amen. Christ sur la terre a été humilié, mais il a été glorifié dans le ciel. C'est le même principe pour nous tous. Sur la terre, nous serons humiliés par les épreuves, les deuils, les difficultés, les déceptions, les combats. Nous serons humiliés par toutes sortes de choses. Mais en même temps, nous vivrons cette gloire céleste parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je ne parle pas seulement de la gloire céleste à venir. Il y a cette ambiguïté dans la vie chrétienne. À la fois sur terre, nous sommes humiliés, nous sommes crucifiés, et en même temps, dans notre âme, dans notre vie intérieure, nous sommes glorifiés, ressuscités, glorifiés, assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et il nous faut vivre les deux. Il ne faut pas choisir l'un au détriment de l'autre, mais il nous faut vivre les deux. Alors après, à partir du verset 12, eh bien, il y a tout ce qui en découle. Ainsi, bien-aimé, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement encore comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc ici, l'Écriture dit ainsi, mes bien-aimés, devant tout ce que le Seigneur a fait et la gloire qu'il a connue après son humiliation, eh bien on peut mettre notre salut en œuvre avec crainte, avec tremblement, et ne pas avoir de doute, c'est Dieu qui va faire le travail, Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. Il y a des moments où on est un peu éteint, on ne sait pas pourquoi, d'un coup ça va mieux, et on a envie à nouveau de venir à l'église, on a envie à nouveau de lire la parole de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Son nom soit béni. Voilà, de revenir ce soir sur cet exemple du Seigneur. Il était Dieu. Il s'est fait esclave. Il a été fait Seigneur. Et il y a quelque chose de mystérieux dans tout cela. C'est vrai que quelque part, Christ a retrouvé sa place dans le ciel. Mais avec quelque chose de plus. Il est remonté au ciel, mais en étant Seigneur et chef de l'Église qu'il a créée lui-même. Alléluia. On pourrait dire qu'il était Dieu, il avait tout. Oui, mais en se faisant esclave et en devenant Seigneur, il a eu un nom et une position nouvelle et une œuvre nouvelle avec l'Église. Cela nous dépasse. Vous savez, on ne mesure pas suffisamment que toutes nos humiliations, si nous le vivons dans l'obéissance, sera pour nous un poids éternel de gloire. Je crois vraiment que si, comme le Seigneur, nous acceptons de descendre, alors Dieu nous élèvera dans sa gloire et nous connaîtrons un héritage nouveau, insoupçonné. Dieu soit béni. Notre espérance n'est pas sur la terre. Qu'on ait une belle maison ou pas, qu'on soit locataire, propriétaire, qu'on ait une belle voiture ou pas, qu'on ait des enfants qui se convertissent ou pas, que notre réussite n'est pas terrestre. Notre espérance n'est pas sur la terre. Dieu soit béni pour tout ce qu'il nous donne. Alléluia. Mais notre espérance, elle est dans les cieux. Alléluia. À son nom la gloire. Amen. On peut chanter peut-être avec JP. Merci.
Ce cantique à mon frère Erwan, si tu voudras bien conclure par la prière après ce chant. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Après ce qu'on vient d'entendre, ben, qu'on puisse faire monter vers lui cette prière. C'est lui qui va travailler nos cœurs. Notre espoir, c'est d'être semblable à sa personne glorieuse.